Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose d'étudier aujourd'hui le texte de la solennité de l'Annonciation que nous fêterons demain. Ce texte se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, à la suite d'une première annonciation que fait l'ange Gabriel à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Je vous lis le texte dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Pour suivre plus facilement le commentaire, je vous invite à vous référer à la feuille que je vous ai fournie, où le texte est découpé en petites parties avec un titre qui le caractérise. L'introduction commence par une mention de temps, le sixième mois, qui est omise dans le texte de la solennité de l'Annonciation, mais qui est pourtant intéressant parce qu'il nous place au cœur d'une histoire. La venue de l'ange Gabriel s'inscrit dans un plan de salut que Dieu est en train de déployer. Et c'est une chose qui est intéressante pour nous parce que dans notre rapport à Dieu, nous pouvons toujours nous interroger ou prendre un temps pour nous replacer dans l'histoire du salut dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Notre relation à Dieu, toute personnelle qu'elle soit, s'inscrit dans une histoire. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas un météore venu de nulle part, je suis arrivé à un moment de l'histoire du salut qui se déploie. Et donc il y a toute une histoire qui me précède, toute une grâce qui me précède et qui se met en place, sur laquelle je vais, on pourrait dire, fleurir. Il y a un terreau d'histoire sainte sur lequel je vais fleurir et sur lequel la Vierge Marie va fleurir aussi. On nous dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ce n'est pas la première fois dans l'Écriture que l'on entend parler de l'ange Gabriel. Alors évidemment, c'est le même qui a fait l'annonce à Zacharie un peu plus tôt dans l'Évangile selon saint Luc. Mais on parlait déjà de l'ange Gabriel dans le livre de Daniel, au chapitre 8 et au chapitre 9. Il venait annoncer au prophète Daniel le temps de la fin. Et donc, si l'ange Gabriel intervient, c'est que cette annonce de la fin trouve son moment, trouve son accomplissement désormais. C'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé, ce temps de la fin que Dieu prépare maintenant. Dieu envoie son ange. Et là, je voudrais juste introduire une petite chose à laquelle je répondrai à la fin du commentaire. C'est de nous interroger en quoi l'ange va être intéressé par cette mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ange, on pourrait dire, rend un service, accomplit un service en allant porter la parole de Dieu, mais quand Dieu envoie en mission, c'est pas simplement pour le bien de la mission, c'est aussi pour le bien de celui qui est envoyé. Et donc, nous tâcherons, à la fin de notre commentaire, de regarder aussi quel est le bien que l'ange Gabriel a pu trouver en accomplissant cette mission. Regardons maintenant comment est qualifiée Marie. Elle est d'abord présentée comme une vierge, et ce terme sera répété par deux fois. Vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. L'homme est précisé, sa lignée également, et donc fait entrer Marie dans les personnes en qui la promesse qui avait été faite à David d'un fils qui régnerait pour les siècles des siècles et qui serait devant Dieu comme son fils, Marie est donc en posture de réaliser cela. Comme vierge d'Israël, elle accomplit aussi la figure dont on parle dans l'Ancien Testament, la Vierge d'Israël, qui représente à la fois le peuple et à la fois la ville de Jérusalem dans leurs caractéristiques saintes, dans leurs caractéristiques d'offrande au Seigneur, de disponible au Seigneur vu comme époux de son peuple. Donc Marie, Vierge d'Israël, mariée à un homme de la lignée de David, devait avoir dans un coin de son cœur, dans un coin de sa mémoire, cette promesse que Dieu avait faite à son peuple. Passons à la salutation. L'ange entre et lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». Le terme de « réjouis-toi » pourrait être pris de façon très ordinaire comme un salut habituel. Comme on dit bonjour, on disait réjouis-toi. Cependant, on préfère souvent dans les traductions garder les deux possibilités, car le réjouis-toi fait aussi allusion à une prophétie du prophète Sophonie, où l'on appelle Jérusalem à la joie parce qu'elle est visitée par le Seigneur son Dieu. Réjouis-toi. Comblé de grâce. Alors comblé de grâce, là le terme est assez étonnant et remarquable parce que en grec cela se dit kekaritomene en utilisant un mode particulier qui est le parfait. Et ce mode désigne une action pleine, elle est comblée de grâce et c'est quelque chose qui demeure en plus. Elle est non seulement comblée de grâce, elle a non seulement été comblée de grâce, mais c'est quelque chose qui demeure. Donc c'est cette grâce de Dieu qui la comble est quelque chose qui réside en elle. Et le ange continue d'ailleurs en disant « Le Seigneur est avec toi ». C'est pas un souhait que le Seigneur soit avec toi. Vous savez qu'au début de la messe, par exemple, le prêtre va dire « Le Seigneur soit avec vous ». C'est un souhait qui a aussi son efficacité, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre cœur à cette salutation, le Seigneur pourra être avec vous. Là, l'ange fait un constat, l'ange énonce un constat. Le Seigneur est avec toi. Et c'était l'une des choses qui était dite de certains grands personnages de l'Écriture, comme on dira de Moïse, comme on dira de David, le Seigneur était avec lui. Cette présence du Seigneur à ses côtés est une chose forte, et en même temps, on pourrait dire, une chose des plus belles, parce que c'était le désir profond de Dieu. Rappelez-vous la prophétie de l'Emmanuel, on annonçait la naissance de celui qui serait Dieu avec nous. Le désir de Dieu, c'est d'être avec nous. Le désir de Dieu, c'est de trouver ces cœurs qui sont heureux, qui désirent et qui s'organisent pour que le Seigneur soit avec eux. Et là, de la Vierge Marie, on dit « Le Seigneur est avec toi ». Il y a cet état qui est énoncé, qui est reconnu. Alors avant d'écouter la réponse de la Vierge Marie, je pense que nous pouvons, à la salutation de l'ange, nous poser deux petites questions. La première question, c'est de nous demander, eh bien, quelles sont les grâces que j'ai reçues de Dieu dans ma vie? En quoi je peux dire que, alors je suis peut-être pas comme la Vierge Marie, comblé de cette plénitude et de cette continuité de la grâce, mais j'ai reçu des grâces dans ma vie. Quelles sont-elles? Est-ce que j'ai mémoire de ces grâces que Dieu a faites pour moi? Est-ce que je suis capable de les énoncer? Et si j'en suis capable, c'est pas idiot de justement les présenter, de prendre un temps de prière pour présenter ces grâces. Et puis la deuxième question, c'est de s'interroger. L'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, et de dire, mais finalement, est-ce que moi j'ai ce désir? Est-ce que j'ai le désir que le Seigneur soit avec moi, de vivre vraiment avec le Seigneur dans tout ce que je fais, que je me lève, que je me couche, que je me déplace, que je mange? Est-ce que le Seigneur, je dirais, est avec moi comme ma respiration est avec moi, comme les battements de mon cœur sont avec moi? Est-ce que j'ai ce désir de cette intimité aussi proche avec le Seigneur? Ça vaut le coup de nous arrêter un moment et de nous poser cette question. Reprenons le commentaire. À cette parole, Marie fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part le trouble et ensuite la question. Le trouble, c'est le trouble ordinaire face à une présence céleste, face à une manifestation surnaturelle. Ce n'est pas la première fois que l'on voit cela dans l'Écriture. Lorsque le Seigneur se manifeste, lorsqu'un ange se manifeste, et l'on aura d'ailleurs face à ce trouble la réponse de l'ange « Sois sans crainte ». Sois sans crainte parce que ce n'est pas justement naturel que d'avoir une apparition de l'ange de Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel par rapport à laquelle notre état de créature a besoin d'être rassuré. Sois sans crainte. Cette parole de l'ange vient justement attester de cette rencontre, du caractère surnaturel de cette rencontre, et permettre à l'être humain de se tenir devant cette manifestation de l'ange du Seigneur, devant cette manifestation céleste. La demande de la Vierge Marie, le questionnement, que signifie cette salutation? Remarquez que on ne dit pas « elle se demanda » ce que signifiait cette salutation, mais « elle se demandait ». Je dirais, l'imparfait qui est utilisé manifeste que c'est pas brièvement qu'elle s'est interrogée, mais c'est une interrogation qui l'a travaillée. Elle se demandait qu'est-ce que ça signifiait cette salutation. Comblée de grâce, avec cette intensité, kekaritomenes, ce mode parfait, cette grâce qui demeure en elle. Et l'ange vient confirmer ce qu'il dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ce tu as trouvé grâce a deux dimensions. La première dimension, c'est l'élément de gratuité. Une grâce, c'est un élément gratuit. Donc ce n'est pas que tout d'un coup le Seigneur s'étonne en se disant « Oh là là, ici il y a quelqu'un d'extraordinaire, d'où ça vient, je ne m'en étais pas rendu compte, et elle s'imposerait devant Dieu ». Non, il n'y a pas une imposition devant Dieu de la Vierge Marie, il y a une gratuité que Dieu lui a faite. Et c'est le premier point, donc vraiment rappelons cette gratuité dont est bénéficiaire la Vierge Marie. Mais aussi un autre élément, c'est que cette gratuité qui lui est faite n'est pas perdue. Cette gratuité, cette grâce qui lui est faite n'est pas perdue. Alors que chez nous, souvent, nous sommes des passoires de la grâce. Vous m'avez peut-être déjà entendu utiliser cette expression, mais je la crois assez parlante. Nous avons reçu plusieurs fois dans notre existence le corps du Christ où la plénitude de la divinité, de la vie divine, se donnait à nous. Et pourtant, nous n'en sommes pas immédiatement saints. Comment se fait-il? C'est pas que le don de Dieu soit inefficace, c'est que ce don de Dieu, nous le laissons filer comme la passoire laisse filer l'eau par les trous qui sont en elle. là, la grâce de Dieu qui est répandue, justement, est recueillie. La grâce de Dieu qui a été conférée ne s'est pas perdue, n'a pas été perdue. Et donc il y a une beauté particulière dans la Vierge Marie, une beauté de cette grâce qui a été recueillie. Vous voyez comme un vase aurait recueilli une eau précieuse, et l'on voit scintiller cette eau, ce n'est pas un vase vide que l'on a devant soi, mais on voit scintiller cette eau de mille feux sous la lumière du soleil. Les dons de Dieu en Marie peuvent dévoiler leur mesure. Alors que souvent sur les êtres humains, ces dons de Dieu se sont dispersés, en Marie, ils sont là et du coup peuvent révéler leur mesure. Il y a une vraie beauté qui réjouit le cœur de Dieu. Pour ne pas faire un fichier trop lourd à transmettre, je vais arrêter ici cette première partie du commentaire et continuer dans un deuxième enregistrement. Je vous suggère cependant de faire une pause ici pour prier les litanies de la Vierge Marie et de voir chacune des litanies, des phrases de la litanie comme un rayonnement de la lumière de Dieu sur l'eau pure de l'âme de la Vierge Marie. De la même façon qu'il y a une beauté à contempler le soleil qui se reflète sur la mer, et bien que cette litanie priée soit pour nous comme la contemplation de la beauté du rayonnement de la lumière de Dieu sur l'eau de l'âme de la Vierge Marie.